Europe 1. Bienvenue au cœur de l'histoire dans les interviews du vendredi. Je suis Virginie Giraud. Aujourd'hui, je reçois l'historien Sylvain Dufraisse, maître de conférences à l'Université de Nantes et auteur des Héros du sport, une histoire des champions soviétiques aux éditions Champvallon. Bonjour Sylvain Dufraisse.
Bonjour.
Les valeurs du sport ont toujours été fortes. Elles portent en elles le dépassement de soi, le sens de la compétition et prennent parfois une coloration patriotique. Certains États se sont servis du sport pour élever et glorifier leur image et notamment à travers les Jeux Olympiques, une compétition sportive internationale qui trouve ses racines dans l'Antiquité grecque. D'abord, petite question préliminaire, en quoi consistaient les JO dans l'Antiquité ?
Alors, il faut aussi essayer de se poser la question sur le lien entre les Jeux Olympiques modernes et les Jeux Olympiques de l'Antiquité, puisqu'en fait, on a le cas d'une réinvention de la tradition. En effet, il y a une différence entre les Jeux Olympiques de l'Antiquité et les Jeux Olympiques modernes, puisque les Jeux Olympiques de l'Antiquité étaient une célébration religieuse. C'était des fêtes, donc qui étaient des fêtes dans lesquelles il y avait des processions, des sacrifices, et elles s'inscrivaient dans un calendrier des Jeux panhelléniques, c'est-à-dire qu'il y avait quatre Jeux qui tournaient, les Jeux Olympiques étaient l'un d'entre eux. Alors, lors de ces compétitions qui ont été mises en place à partir du 5e siècle, qui duraient 5 jours et qui avaient lieu donc tous les 4 ans, puisqu'il y avait aussi les Jeux Pythiques, les Jeux Ismiques et les Jeux Néméens, eh bien, il y avait en effet des compétitions, des concours de chars, des épreuves de lutte, des épreuves de lancer, des courses sur le stade, également des épreuves de combat. Mais en fait, on ne peut pas dire que ce soit exactement du sport, puisque le sport, c'est vraiment quelque chose qui apparaît à l'époque moderne, à la fin du 19e siècle. Donc là, on voit en fait que Pierre de Coubertin s'est inspiré des Jeux olympiques de l'Antiquité, et cet appel à l'Antiquité a permis de légitimer l'épreuve en fait qu'il cherchait à créer, ce concours qui rassemblait divers sports, diverses épreuves.
Oui, effectivement, comme vous le disiez, à l'époque de l'Antiquité, ce sont des jeux panhelléniques. Ça veut dire qu'ils permettent de se faire affronter toute la Grèce, toutes les grandes villes, les cités-états de la Grèce, à travers différents jeux dans un cadre religieux. Et donc, Pierre de Coubertin réinvente les Jeux Olympiques. Vous nous rappelez rapidement qui est Pierre de Coubertin ?
Alors, Pierre de Coubertin, c'est un aristocrate français, un homme très cosmopolite qui parcourt le monde, qui va aux États-Unis, qui va en Angleterre, qui cherche aussi à produire la nouvelle chevalerie. Comment essayer, en fait, de produire une aristocratie de jeunes cultivés, de jeunes hommes cultivés qui vont être les futurs cadres des nations, des États, et qui vont se connaître. Et Pierre de Coubertin, c'est dans cette optique-là d'éduquer la future élite qu'il crée ces Jeux Olympiques. Et en fait, ces rencontres, elles ont aussi pour objectif de partager certaines valeurs, les valeurs du fair play, de l'esprit d'équipe, l'esprit de compétition. Et c'est pour ça, en fait, qu'il organise au sein de différents congrès, ce projet des Jeux Olympiques. Alors, ce projet des Jeux Olympiques, il est aussi lié à un contexte favorable. Il ne faut pas imaginer que Pierre de Coubertin imagine cela et tel un prophète qu'il ferait revenir les Jeux Olympiques. En fait, il y a un contexte de panhellénisme, de vogue du panhellénisme à la fin du 19e siècle. Cette vogue, elle est liée en fait à la redécouverte du sanctuaire d'Olympie, des fouilles à partir de 1829, de la relance des fouilles en 1875 par l'Institut archéologique allemand d'Athènes. Et cette redécouverte, elle aboutit à créer des espèces de revival folklorique, des épreuves antiques, les promenades olympiques à Grenoble ou les rassemblements de la diaspora panhellène. Donc il y a un contexte de retour des Jeux Olympiques et dans ses racines grecques, en effet. Et donc, Pierre de Coubertin légitime ces nouvelles questions sportives par cet héritage grec. Ensuite, il y a aussi cette vogue de l'universalisme. Pierre de Coubertin, c'est un homme cosmopolite qui manifeste son intérêt pour les mouvements pour la paix, pour un développement international comme celui des expositions universelles. Donc, il cherche en fait à trouver des moyens d'éviter la guerre, et un des moyens d'éviter la guerre, c'est de faire ces rencontres sportives entre la future élite du monde qui, si elle elle se connaît, si elle partage en fait des épreuves sportives, si elle partage cet esprit du fair play de la compétition, ne se fera pas la guerre après.
Donc on devient patriote sans haïr son voisin quelque part.
Voilà, et l'objectif initial des Jeux Olympiques, c'est un objectif universel. On n'est pas du tout encore dans un usage patriotique de la compétition pour mettre en avant la nation. Pierre de Coubertin, il a un projet universaliste, très idéaliste. Et cette création des Jeux Olympiques modernes, elle se fait en plusieurs temps. D'abord, en 1889, lors du Congrès international pour la propagation des exercices physiques pour l'éducation, Pierre de Coubertin formalise un premier réseau de grands bourgeois, d'aristocrates qui sont intéressés par les questions de pédagogie sportive. Ensuite, dans un deuxième temps, 1892, il fait un discours lors du jubilé de l'Union des sociétés françaises des sports athlétiques pour rétablir les Jeux. Mais ce discours n'est pas suivi d'effet et il n'a peu d'intérêt finalement, ce qui oblige le jeune baron à trouver des alliés, en particulier outre-Atlantique. Et c'est ce qu'il arrive à faire en 1894 lors du congrès de la Sorbonne qui traite d'abord des questions de l'amateurisme et qui finalement aboutit au rétablissement des Jeux. Et lors de ce congrès, il y a aussi beaucoup de discussions parce que tous ces pédagogues qui sont intéressés aux questions sportives ou aux questions d'exercice physique ne viennent pas de la même culture de l'activité physique. Certains sont plutôt proches d'une vision anglaise, du sport anglais,
c'est-à-dire
de l'aviron, du football, de ce sport codifié, mesuré, tel qu'il a émergé en Angleterre dans les public schools. Et d'autres qui viennent par exemple d'Europe centrale vont davantage défendre les questions de gymnastique, par exemple. Et les Français vont aussi défendre, par exemple, l'escrime, l'équitation, ces sports aristocratiques. Et donc, dans ces Jeux olympiques, vous avez une forme d'amalgame de ces traditions d'activité physique que l'on retrouve en Europe. Donc, on voit une forme de consensus des exercices physiques pour finalement rallier le plus de monde.
Et quelles sont les conditions pour participer aux Jeux olympiques ?
Alors, les conditions pour participer aux Jeux Olympiques, c'est d'abord d'être un amateur. Comme je vous l'ai dit, l'objectif de Pierre de Coubertin, c'est de s'adresser à l'élite, à l'aristocratie, aux grands bourgeois, ceux qui ont du temps et qui peuvent en participer en parallèle, occuper leur temps de loisir par les activités physiques et sportives. Mais ce qu'il faut aussi bien imaginer, c'est que nous ne sommes pas dans une représentation par État. Ce sont des comités nationaux olympiques qui se chargent de sélectionner les individus, mais ces individus-là ne représentent pas les États. Donc, il ne faut pas faire cet amalgame entre État et Comité national olympique, au moins au début de la période olympique. Ce qui fait, par exemple, que jusqu'au tournoi de 1908, en football, ce ne sont pas des représentations nationales qui participent au tournoi de football, ce sont des équipes de clubs. Ensuite, ce qui est intéressant de voir, c'est le basculement que l'on voit se produire, le patriotisme qui se développe lors des Jeux Olympiques. Alors ça, il y a plusieurs étapes. Par exemple, lors des Jeux Olympiques de 1912, à Stockholm, vous avez la Bohème qui participe, le Comité National de Bohème.
Donc la Bohème, c'est une région de l'Europe centrale.
Et de l'Empire austro-hongrois. Donc vous voyez ici une forme de différence entre Comité National qui représente une nation, et État. Et vous avez la même chose pour l'Empire russe et la Finlande. Et vous avez par exemple un sportif qui s'appelle Hannes Kalemäinen, qui est un spécialiste de la course de fond, qui remporte une médaille d'or. Et c'est un moyen en fait de produire une valorisation de la Finlande en tant que nation. Donc vous voyez ici comment certains peuples des empires commencent à utiliser les compétitions olympiques comme un moyen de réclamer leur indépendance.
Et d'ailleurs, les JO de 1936 marquent une rupture. Il se passe à Berlin et là, on a bien une glorification en Allemagne du Reich et de ce que représentent les Aryens dans la mythologie du nazisme.
Oui, donc les Jeux olympiques de Berlin sont un moment finalement aussi où les Jeux olympiques gagnent en intérêt. Puisqu'en fait, le régime nazi cherche à utiliser les Jeux olympiques pour en faire une vitrine du régime nazi. Et pour cela, il a mis énormément de moyens, il a créé des conditions très spectaculaires, une architecture qui a pour objectif de faire briller l'Allemagne nazie et puis d'apporter finalement une image moins belliqueuse. Ces Jeux olympiques de Berlin en 1936 ils vont susciter quand même un certain nombre de polémiques entre l'arrivée au pouvoir d'Hitler et puis les Jeux. Puisqu'en fait, c'est durant la République de Weimar que les Jeux ont été attribués à l'Allemagne. Et entre 1934 et 1936, eh bien, vous avez des comités nationaux olympiques comme celui des États-Unis qui vont poser la question de la discrimination des sportifs juifs et de l'intérêt de participer ou non à cette compétition qui va valoriser le régime nazi. Vous avez la même chose en particulier chez le gouvernement espagnol qui a été défait par Berlin pour l'organisation des Jeux de 36 et qui va tenter d'organiser une compétition parallèle en 1936, l'Olympiade populaire, qui va rassembler les sportifs socialistes de l'Europe entière.
Et alors, si on fait un petit bond dans le temps, on arrive dans les années 50, dans le contexte de la guerre froide où s'opposent la Russie et l'URSS. Est-ce que pour ces deux superpuissances de cette période, les Jeux Olympiques sont un moyen de se mettre en valeur et de rallier d'autres États à leur cause ?
Bien évidemment, il faut savoir que même dès leur première participation, les États-Unis ont cherché, les journalistes, les dirigeants sportifs des États-Unis, ont cherché à utiliser les Jeux Olympiques pour montrer comme leurs sportifs c'était des missionnaires de la République, des missionnaires des États-Unis. Et l'Union soviétique a, dans les années 30, essayé de construire un monde alternatif. Ils ont construit une internationale rouge du sport de 1921 à 1937. Et c'est à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale qu'ils décident d'entrer dans le monde du sport, dans les fédérations internationales. Et ils sont acceptés au CIO en 1951. Leur première participation aux Jeux est en 1952 pour les Jeux olympiques d'été et en 1956 pour les Jeux olympiques d'hiver. L'URSS utilise le sport, utilise ses champions pour montrer finalement l'avancée de l'URSS, mais aussi pour montrer un visage plus souriant, montrer finalement que les soviétiques sont des gens comme les autres, et aussi promouvoir certains idéaux, par exemple le mouvement pour la paix. En 1952, ils vont essayer de montrer que eux défendent la paix contre et que les États-Unis ne la défendent pas. Donc il y a en fait un objectif de propagande, utiliser le sport comme un moyen de promotion du régime, de promotion de ses valeurs.
Alors je vais vous poser une question prospective, à vous qui êtes historien, en 2024, Paris accueille les Jeux Olympiques. Est-ce que là encore, ce sera quelque chose qui va relever de la propagande pour Paris et la France ou on est revenu à une vision du sport qui serait purement fair-play et élégante ?
Alors, pour Paris, je pense qu'on peut déjà imaginer que comme à Londres en 2012, il va y avoir une valorisation de l'image de Paris. Le fait que la cérémonie d'ouverture se déroule le long de la Seine va donner sans doute un certain nombre d'images avec la Tour Eiffel, etc. Et je pense que Thomas Joly, le metteur en scène, va réutiliser un certain nombre de clichés dans cette cérémonie d'ouverture. Mais il faut aussi imaginer que les organisateurs de ces Jeux Olympiques vont se servir aussi du cadre parisien pour rendre les épreuves spectaculaires. Le fait, par exemple, qu'il y ait des compétitions au Champ de Mars, qu'il y ait des compétitions également au Château de Versailles, tout ça a pour objectif, en fait, de rendre encore plus spectaculaires les épreuves. Donc, il va y avoir un jeu des organisateurs pour donner une image finalement assez lisse et consensuelle de la France. Et également, de la part des dirigeants du CIO, ils utilisent l'image de Paris pour rendre encore plus spectaculaire, pour rendre encore plus glamour l'épreuve des Jeux Olympiques.
Donc pour conclure en une phrase, on peut dire que finalement on est très éloigné aujourd'hui de l'esprit de Pierre de Coubertin et de son universalisme. C'est devenu quelque chose de purement politique, les JO.
L'universalisme du sport est une forme d'utopie. Et cet universalisme, et il faut imaginer aussi que le sport, c'est une pratique qui est encodée. C'est-à-dire à laquelle on donne une signification et que les différents pouvoirs utilisent finalement la plasticité du sport pour défendre leurs valeurs ou pour imposer leurs vues.
Merci Sylvain Dufraisse pour cette réflexion autour de l'histoire des Jeux Olympiques comme outil de propagande. Je rappelle que votre dernier ouvrage, Les héros du sport, une histoire des champions soviétiques, est paru aux éditions Champvallon. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio. Merci à vous tous d'avoir écouté l'interview bonus du vendredi. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et si vous avez aimé, laissez-nous des étoiles, ce sera pour nous comme des médailles d'or. À bientôt !